merci. Et c'est une petite question sur la fragmentation progressive des habitations. Donc, si j'ai bien compris, on part d'une situation, pour simplifier, où les habitations sont entre les mains de petits blancs. Qu'ensuite, en raison d'une crise économique, les voilà privés de main-d'œuvre. Ils sont obligés de se débarrasser de leur main-d'œuvre servile. Okay. Et ils vont opter pour des stratégies matrimoniales, d'alliance, pour pouvoir obtenir une main-d'œuvre qui, cette fois-ci, va être une main-d'œuvre d'affin, de ce qu'on appelle d'alliés.
Ouais.
OK. Et ce faisant, il donne aussi l'occasion à ces nouveaux alliés qui sont, pour la plupart, on a bien compris, des mulâtres ou bien des nouveaux livres.
Oui.
OK. Il donne, par la même occasion, accès à ces gens-là à la terre. Et donc, ces gens-là ont des enfants, ça produit de la main-d'œuvre, etc. Et donc, il y a fragmentation de la. Je suppose qu'il y a distribution, héritage, fragmentation.
Voilà, de la terre.
De la terre. Ouais. Et ce processus, sans doute, donc, il commence, on va dire grosso modo, au milieu du 19e siècle.
Ouais.
Sans doute, il continue également jusqu'au milieu du 20e siècle. Alors, toi, tu as attribué essentiellement à la surexploitation des grands fonds pour fournir le vivrier pendant la période Saurin et peut-être après, le fait qu'on arrête ces jachères longues forestières qui permettent de renouveler la fertilité. Mais est-ce que cette augmentation démographique, elle n'a pas aussi participé à l'évolution de la pratique des jachères longues, à sa disparition ? Est-ce que j'ai bien... Ma question est claire ?
Oui. Bon. Certainement que la pression démographique a accéléré l'épuisement des sols. Mais je n'ai pas réussi à récolter des éléments de preuve. On peut faire l'hypothèse. On peut faire l'hypothèse, mais il reste que cette société a évolué hors des logiques de consommation. Les gens se satisfaisaient de pas grand-chose. Le principe d'accumuler n'était pas leur histoire. On accédait à la terre pour pouvoir disposer de quoi nourrir les siens. Pendant longtemps, du logement, c'est le logement de 6 mètres sur 3 mètres qu'on améliore au fur et à mesure. Jusqu'à Hugo, jusqu'au cyclone Hugo, c'était le logement dominant dans la région. Hein ? Ouais. Et quelques rares personnes avaient les logements en dur. Bon, c'était le cas de Ris-Saint-Laurent, c'était le cas du côté des... je connais quelques personnalités qui avaient des logements en dur avec... Bon, voilà. Mais les gens, disons, je crois que le mot paysan, c'est le mot, vraiment le mot qui convient le mieux. Les gens ne cherchaient pas à accumuler ni terre, ni ressources financières. Ils avaient une maîtrise de leurs besoins. Tant et si bien que, bon, consommation de viande. Rarement les gens allaient acheter de la viande. Ils avaient leur élevage derrière. L'élevage était derrière les maisons. Et quand de temps en temps à la rentrée ou pour un mariage, pour quelqu'un tuait un cochon ou un bœuf, il prévenait les amis aux alentours qui connaissaient la bête qu'on devait tuer. C'est à cette condition qu'ils allaient acheter la viande. Bon, voilà. Non, c'était. Les gens vivaient de manière très, comment dire, très sobre, quoi. Du coup, la pression sur la terre. Bon, il se trouve que moi, je suis arrivé dans les années 80. C'est en 80 que j'ai commencé mes études sur les grands fonds. 83, exactement. Bon, j'ai pu remonter, mais dans le discours des gens, bon, j'ai pas vu des signes de précarité, de misère, alors que ma belle-mère, sur Saint-François, n'arrêtait pas de dire, c'est pas timisé, en vrai. J'ai pas surpris des gens dans les grands fonds évoquer une misère. Bon, voilà. Et puis, c'est les échanges. Vous avez un bœuf, vous n'avez pas où l'attacher. Ben, quelqu'un, un ami, un parent vous laisse paître, vous permet de faire paître votre bœuf sur sa parcelle, etc.